L'info Médor sur Chéri.
Ce mois-ci, l'hypersurveillance familiale.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro Médor que Chéri vous propose dorénavant tous les mois. Avec les journalistes du magazine d'investigation, nous allons prendre le temps d'évoquer une enquête. Cette fois, ce sera sur l'hypersurveillance familiale.
2012, nous avons donné à nos enfants un téléphone. 2021, il s'est transformé en ordinateur, entraînant les parents dans ce paradoxe. Nous n'avons jamais autant désiré des gosses autonomes, nous ne les avons jamais autant surveillés.
Et pour en parler, on accueille Chloé Andries. Chloé, vous êtes donc journaliste et vous êtes l'une des fondatrices de Médor. Vous avez décidé de travailler sur l'hypersurveillance dans notre société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors on a choisi de travailler sur l'hypersurveillance jusque décembre 2021 en équipe, en rédaction. On le fait à travers trois volets. Deux premiers volets qui sont peut-être où le lien avec l'hypersurveillance semble plus évident, c'est le volet de la police et des banques de données. Le volet de la santé, c'est-à-dire nos données de santé, à qui on les donne, comment, pour quels usages, etc. Et un volet qui a priori comme ça moins à voir avec l'hypersurveillance, c'est le volet de la famille. Et sur ce volet, on va travailler avec mon collègue Olivier Bailly, qui est aussi journaliste à Médor. Pourquoi la famille, ça a moins de lien a priori ? Parce qu'on se dit, la famille, c'est le lieu qui incarne vraiment la vie privée. C'est là où on est entre soi et où il n'y a pas vraiment de danger. Et c'est justement pour ça que c'est fondamental, parce que c'est dans la famille qu'on apprend aussi à définir sa vie privée, qu'on éduque ses enfants, qu'on en discute, qu'on modifie nos comportements, nos usages. Et là-dedans, on s'est rendu compte que la technologie avait changé la donne.
Alors, plantons le décor pour nos auditeurs. Ça veut dire quoi exactement l'hypersurveillance familiale ?
Alors, nous, on a décidé de se focaliser sur un outil en particulier, c'est le GSM, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un GSM, parents comme enfants. Et justement, sur cette relation, ce trio infernal, on va dire, du parent, de l'ado, enfin de l'enfant, et du GSM. Parce que s'il n'y a pas plus bienveillant qu'un outil comme le GSM, on le donne à son enfant pour qu'il soit plus autonome, etc. Et en parallèle, ça peut nous rendre à un moment surveillant, parce qu'on essaye de l'aider, mais de le surveiller. Et on peut même vite se faire dépasser par le surveillé qui, à un moment, peut nous épier lui-même, si on imagine un peu loin. Et en fait, on s'est basé sur deux constats. Le premier, c'est que, OK, il y a 10 ans, on a donné un GSM à notre enfant. 90% des gamins entre 10 et 18 ans avaient un GSM. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est devenu un ordinateur. Et ça, en fait, on ne l'a pas vu venir. Et un ordinateur, voilà, il y a vraiment beaucoup plus de possibilités. Et dans le même temps, les parents sont soumis à de plus en plus de pression pour accompagner leurs enfants dans l'autonomie. Les neurosciences qui ont apporté ça comme changement dans la société. L'enfant, il est vu aujourd'hui comme un potentiel caché. Et c'est les parents qui sont de plus en plus responsables de lui donner son autonomie et en même temps de l'accompagner. Donc il est vraiment pris, le parent, beaucoup plus qu'avant dans cette espèce de paradoxe qui fait qu'il doit donner de l'autonomie à son enfant, lui apprendre à être autonome en ne cessant d'être son guide.
Alors Chloé, est-ce que vous aviez des hypothèses de départ et comment est-ce qu'on construit une telle enquête ?
Justement, pour construire une telle enquête, d'abord on commence par essayer de rencontrer des ados, des jeunes, des parents. On a fait des entretiens préalables, on a aussi rencontré différents experts de la question, des sociologues, etc. Des associations directement concernées ou qui travaillent sur les thématiques famille ou éducation. Et rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un vide, un manque de données sur justement les usages, en fait, sur comment, avec notre GSM, on a modifié nos pratiques au sein de la famille. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ça pouvait être pertinent de lancer, et c'est la première étape de notre enquête, de lancer un grand questionnaire à destination des parents, mais aussi des enfants qui ont un GSM, et de leur poser toute une série de questions vraiment qui ont l'air basiques, mais des questions de tous les jours pour décoder les usages et voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ce téléphone et comment on devient ou pas parent bienveillant ou hyper surveillant.
Alors justement, parlons de ce questionnaire. Vous ciblez qui exactement ?
Alors, c'est très simple, on cible les parents ou au sens large, c'est-à-dire toute personne qui a un jeune sous son toit, même pas forcément à temps plein, mais dont il a la charge, et qui a un GSM. Et on cible de l'autre côté, parce qu'on a un questionnaire dédié aux parents, et le questionnaire dédié aux enfants s'adresse à toute personne qui a entre 9 et 20 ans, c'est vraiment assez large, et qui a un GSM.
Et est-ce que, du coup, vous pouvez nous donner le type de questions que vous posez donc à travers ce questionnaire ?
Alors, nos questions, elles sont de trois ordres. Le premier, c'est assez général. C'est sur comment on a obtenu ce GSM et comment, quelles règles on a mises. Et à quel âge vous avez donné, par exemple, un GSM à votre enfant? Quelles règles avez-vous mises? Est-ce qu'il n'y avait aucune règle? Est-ce que c'était pas dans la chambre le soir ou pas à certains moments? Oui, d'accord, mais partage-moi ta localisation. Est-ce que ces règles sont toujours d'actualité? Est-ce que vous avez déjà utilisé des applications de contrôle parental ou des outils de partage familial? Ça, c'est un premier volet de questions. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est plus de l'ordre de la définition de la vie privée ou de la redéfinition de la vie privée, avec des questions toutes bêtes, mais assez intéressantes. C'est par exemple, avez-vous accès au téléphone de votre enfant? Parce que dans les entretiens préalables, on s'est aperçu que bien souvent, non. Très vite, les parents n'ont plus accès au téléphone de leur enfant, qui réclame son droit à la vie privée, et c'est bien normal. Et après, lui, votre enfant, a-t-il accès à votre téléphone? Et là, il faut voir si les réponses vont confirmer ou infirmer les hypothèses de départ. Mais généralement, l'enfant a plus volontiers accès au téléphone de ses parents. Et puis après, l'ado, on lui demande aussi, tes amis, est-ce qu'ils ont accès, eux, à ton téléphone? Et si oui, comment? Pour essayer de documenter aussi la façon dont les enfants vont se comporter aussi avec leur père et comment ils négocient avec ces différents usages. Et alors, le dernier volet, on va dire, c'est plus le volet... qui s'adresse à donc tout parent qui n'est pas un flic, mais est-ce qu'il y a un moment ça dérape? Et ça peut être des choses vraiment très précises, hein, comme est-ce que vous avez vu, même parfois sans le vouloir, les messages ou les notifications ou les photos sur le téléphone de votre enfant? Ça peut être mais sans faire exprès, c'était sur le téléphone, sur la table basse dans le salon, et hop, je l'ai vu. Et lui, a-t-il même question pour l'ado? Et aussi, on va aborder toutes les techniques qui peuvent être développées pour contourner, par exemple, le contrôle parental. Ça veut dire, par exemple, as-tu déjà eu un deuxième téléphone caché dans ta chambre? Ou est-ce que tu as des comptes sur les réseaux sociaux inconnus de tes parents, alors qu'en parallèle, on demande aux parents s'ils sont amis avec leurs enfants sur les réseaux sociaux? C'est toutes ces questions-là qu'on a vraiment hâte de décortiquer avec les lecteurs et les lectrices.
Combien de temps ça prend et est-ce que vous confirmez que c'est bien anonyme?
Totalement anonyme et ça ne prend effectivement que 5 à 10 minutes max. Donc le but du jeu, c'est juste de ne pas mentir.
Donc Chloé, vous nous dites que ça ne prend pas beaucoup de temps, 5 à 10 minutes, c'est anonyme, c'est léger et pourtant c'est super important pour vous d'avoir les remontées de terrain. Alors vous avez, auditeur, jusque fin septembre pour y répondre. Chloé, quel est le planning de l'enquête? Est-ce que vous pouvez nous parler des étapes?
Alors les étapes, c'est très simple, c'est que là vous avez tout l'été et sur la plage ou ailleurs, en famille ou pas, avec les ados ou pas, et jusque fin septembre pour répondre au questionnaire. Ça c'est vraiment capital pour nous parce que plus on a de réponses, plus ça va nous permettre d'être fin sur la façon de décoder nos usages et de peut-être obtenir des conclusions qu'on n'attendait pas. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on aura récolté toutes ces données, on va prendre le temps de les analyser, de faire des entretiens aussi individuels, etc. Et tous les résultats de cette enquête seront publiés à partir d'octobre. Et à partir d'octobre, va aussi monter en scène notre famille, enfin une famille qui va naître de ces questionnaires, mais aussi des autres travaux de terrain d'investigation qu'on va mener, qui sera la famille Rien à cacher. Mais on se posera peut-être ensemble la question de est-ce qu'elle a vraiment rien à cacher, et donc on pourra suivre cette famille à travers différents épisodes qui vont se terminer en décembre.
Alors sur le côté pratico-pratique, où peut-on retrouver votre dossier sur l'hypersurveillance et donc le questionnaire dont on vient de parler?
On peut le retrouver sur notre site internet www.medor.coop et tous ces questionnaires sont en accès libre bien évidemment, donc pour nos non-abonnés également.
Merci Chloé d'avoir pris le temps de nous expliquer comment vous avez pensé et construit cette grande enquête sur l'hypersurveillance familiale. Nous, on vous invite vivement à y participer. On vous le rappelle, rien de plus simple, rendez-vous sur le site www.medor.coop. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour le troisième numéro de l'Info Médor avec Chérie. À bientôt.
Une info belge, indépendante et participative, c'est l'Info Médor, tous les mois sur Chérie.